Nous allons prier et nous allons lire un texte de la parole de Dieu et ensuite nous allons regarder cet exposé. Alors, prions ensemble. Seigneur, alors que nous abordons le thème de la souffrance, nous reconnaissons que nous sommes bien petits, pécheurs et rebelles. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es au ciel, tu fais tout ce que tu veux. Tu n'es pas comme les idoles qui ne voient pas, qui n'entendent pas. Au contraire, Seigneur, tu nous vois, tu nous connais, tu nous accompagnes même et tu nous délivres. Alors, notre prière ce matin, c'est que tu nous fasses du bien, que tu nous équipes. Et alors que nous touchons des choses qui nous dépassent, que tu nous accordes la sagesse et la grâce de saisir par la foi ta consolation et ton amour envers nous. Nous te remercions, Seigneur, de ta toute suffisance dans nos vies. Nous te prions que tu nous accordes la persévérance dans nos épreuves. Te demandons de ne pas nous conduire dans la tentation, mais de nous délivrer du mal. En Jésus, ton Fils. Amen. Amen. Vous étiez censé avoir une feuille qui vous permet de suivre le plan, alors je vais solliciter votre attention un petit peu plus pour regarder ce thème. Quand on touche un thème comme celui de la souffrance, et je suis conscient que ce que j'annonce ce matin s'inscrit dans une série qui a déjà commencé la semaine dernière, qui va se poursuivre la semaine prochaine, Yannick m'a donné la belle tâche de couvrir toute la Bible. Alors, évidemment, ce ne sera pas possible, malgré que ce serait donc plaisant. Ce serait glorieux, mais on serait là au moins jusqu'à la semaine prochaine. Mais nous allons commencer par un texte qui est dans la première épître de Pierre. S'il y a une épître qui parle de la souffrance, c'est bien l'épître, la première épître de Pierre. 52 impératifs dans cette épître-là en français. Dans les langues originales, c'est un peu différent. Mais il y a un thème qui ressort très fortement au sein de ces impératifs, c'est le fait que, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas chez nous, nous ne sommes pas à la maison. Peut-être vous venez de vous acheter une maison, dites à vos enfants que vous n'êtes pas chez vous, comme nous avons fait avec les nôtres. Non pas qu'on était pour déménager le lendemain, mais notre véritable résidence n'est pas ici. Elle est à venir et nos yeux sont fixés là. Dans 1 Pierre chapitre 4, il nous est dit au verset 1, « Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi, » Pierre s'adresse à des enfants de Dieu, « vous aussi, armez-vous, équipez-vous, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » C'est dans le cadre du péché, évidemment, il y a toujours un contexte à respecter. Mais verset 2, « Afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est suffisant, en effet, d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens. En accomplissant ou en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries, l'idolâtrie criminelle, ils trouvent étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement de débauche. Et ils vous calomnient. » La calomnie, c'est une des formes de la souffrance que l'on trouve dans 1 Pierre. Si on fait juste un petit saut vers la fin du chapitre, verset 12 du même chapitre, chapitre 4. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » Sur Facebook, cette semaine, c'était rempli d'allusions aux chrétiens en Syrie, en Irak, en Iran. Ne soyez pas surpris. Un de mes anciens étudiants a affiché quelque chose sur son babillard, prononçant des imprécations. Ce n'est pas la réponse biblique à cette situation. Soyez pas surpris. Soyez pas surpris. Comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ. Encore là, le contexte ici est dans le cadre de la persécution. Afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Christ, ou l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que nul de vous ne souffre comme menteur, voleur, malfaiteur, ou se mêlant des affaires d'autrui. Oh, ça parle des Québécois, ça. Mais si c'est comme chrétien, un des deux seuls endroits dans le Nouveau Testament où on trouve le mot chrétien, ici, dans Actes 11, si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Le temps nous manque pour regarder un peu plus long le contexte. J'ai intitulé la prédication de ce matin « Le Dieu qui accompagne et qui délivre ». Il y a une raison pour ça, c'est que lorsque nous abordons la question de la souffrance, il nous est facile de perdre notre équilibre, non seulement mental, mais aussi spirituel. Il est possible pour nous d'entendre des prédications ou de nous accrocher simplement à la délivrance. On soupire après la délivrance, on entend des prédications par rapport à la délivrance, qu'on a un Dieu qui délivre, mais quand on souffre et que nous ne sommes pas délivrés, ça vient tordre notre compréhension de Dieu si, au départ, nous n'avons pas une perspective équilibrée, juste, qui tienne compte de l'ensemble de la parole de Dieu et non seulement des textes qui nous parlent de délivrance. Si certains psaumes se terminent dans la gloire et je te glorifierai, je te louerai de tout mon cœur, d'autres se terminent dans l'abîme et dans le désespoir. Ça fait partie de la vie humaine. Et Dieu, non seulement nous délivre, mais nous accompagne dans ces moments-là. Et il est important, lorsque nous abordons la souffrance, d'avoir donc une perspective équilibrée. Nous ne sommes pas toujours délivrés. Nous ne sommes pas toujours épargnés. Nous sommes parfois désorientés. Et à toujours vouloir être délivré, c'est s'exposer à être désillusionné. Il est important de réfléchir à la souffrance et à se construire une théologie de la souffrance, si on peut s'exprimer ainsi, avant que la souffrance nous frappe de plein fouet. Peut-être elle nous a déjà frappés et bon, ce qu'on entend ce matin vient après coup, mais combien ça nous fait du bien de saisir certaines vérités de la parole de Dieu avant de souffrir et ou avant d'être frappé trop fortement par la souffrance. Ce matin, je n'ai pas la prétention de répondre à toutes les questions par rapport à la souffrance ou à traiter la chose pour défendre Dieu ou offrir toute la consolation des Écritures. Il y a d'excellents livres qui ont été écrits là-dessus. Le livre de C.S. Lewis, « Le problème de la souffrance » ou « Le problème du mal », je ne me souviens pas du titre en français exactement, en anglais « The Problem of Pain ». Mais il existe aussi un livre en français que je veux vous recommander. On vient de le terminer avec un petit groupe de lecture à l'église chez nous. Livre de Donald Carson, mon directeur de thèse, « Jusqu'à quand », tiré du psaume 13. Mais c'est vraiment une théologie biblique de la souffrance. En anglais, « How long, O Lord? Reflections on evil and suffering ». J'enseigne en anglais, donc souvent je vais lire les ouvrages en anglais. Mais j'aimerais nous offrir ce matin, non pas quelques pistes, mais une douzaine de pistes de réflexion. Peut-être que vous êtes habitué à des messages en trois points, ce matin vous en avez 12. On parle de souffrance, ce sera souffrant. Non. On va être bref sur chacune. Et ce sont des pistes de réflexion. Ce ne sont pas des réponses toutes cuites. Ce ne sont pas des choses toutes mâchées. Mais des pistes de réflexion destinées à nous amener à peut-être réfléchir un peu plus avant. Peut-être que ça va susciter encore plus de questions. C'est très bien si c'est le cas. Parce que Dieu veut nous équiper, il veut qu'on se serve de notre intelligence. Alors voici donc une douzaine de pistes de réflexion destinées à réfléchir, à méditer, à équiper. Elles vont du général au particulier, des philosophiques au plus biblique, et je vais tenter d'y aller de la Genèse à l'Apocalypse. J'ai 25 minutes. On va tenter de le faire. La première piste de réflexion, c'est que la réalité de la souffrance est un problème pour tous les systèmes de pensée et pour toutes les religions. Il n'y a aucun être humain qui échappe tôt ou tard à la souffrance. Et la souffrance, c'est un problème dans tous les systèmes. Faites le tour des religions, à part le bouddhisme qui nie la réalité de la souffrance, qui la perçoit comme étant une illusion dont on doit s'affranchir par des exercices de méditation, de redressement des points d'énergie de la colonne et de récitation de mantras pour nier l'existence de la souffrance. La souffrance est un problème dans tous les systèmes. Hindouisme, islam, catholicisme, protestantisme. C'est un problème dans tous les systèmes. Alors, si certaines personnes refusent de croire en Dieu à cause de la souffrance, mais même les athées ne peuvent expliquer la souffrance. Alors, elle est un problème pour tous les systèmes de pensée. Refuser de devenir chrétien à cause de la souffrance, c'est pas plus logique que de demeurer chrétien à cause de la souffrance. La souffrance nous atteint tous, tôt ou tard, et peu importe le système religieux, peu importe la clarté même qu'on tente de donner à cette doctrine, le christianisme n'a pas toutes les réponses. Elle prend compte de la souffrance, elle nous présente la souffrance comme étant une réalité, on va en parler un peu plus tard tantôt, mais c'est un problème dans tous les systèmes. Deuxièmement, je tente d'être bref, alors il faut avancer. Il nous faut distinguer, lorsqu'on parle de souffrance, il nous faut distinguer entre le mal et la souffrance. Souvent, un engendre l'autre, le mal va engendrer la souffrance. Mais lorsque l'on parle de souffrance, souvent on parle de souffrance de douleur, souffrance physique, psychologique, émotive. Mais il peut y avoir souffrance sans nécessairement qu'il y ait du mal. Toute souffrance n'est pas synonyme de mal. D'ailleurs, ça remettra en question certaines associations que l'on fait des fois entre souffrance et péché. Mais quand on parle du mal, par exemple, le mal est quelque chose de moral. Tandis que la souffrance n'est pas nécessairement morale. Nous, on peut l'apercevoir comme étant immoral et on a de la difficulté à mettre Dieu dans l'équation. Mais lorsque l'on parle du mal, on parle du mal moral. Et le mal présuppose un bien, présuppose un système. Nous croyons que c'est la présence et la personne de Dieu qui détermine ce qui est bien, ce qui est mal. C'était là le premier péché, hein? Connaître le bien et le mal, c'est quoi? C'est de déterminer soi-même ce qui est bien, ce qui est mal. Ça, c'est la définition la plus fondamentale que j'ai pu lire au sujet du péché. Plus que désobéir à la loi de Dieu, c'est aussi le péché. Mais le péché, c'est de vouloir déterminer soi-même ce qui est bien, ce qui est mal. Autrement dit, être Dieu. Dans un sens, le diable mentit à Adam et Ève. Dans un autre sens, il leur a pas menti. Ils ont été comme Dieu, déterminant pour eux-mêmes le bien et le mal. Ils ont voulu prendre la place de Dieu. Malheureusement, il n'y a qu'un seul Dieu, la place est déjà prise. Et à vouloir singer Dieu, on se retrouve avec une grimace, avec une vulgarité, avec une imitation, pâle imitation. Alors, lorsque l'on parle de souffrance, on doit dégager la souffrance du mal moral, quoique souvent il soit relié, mais pas toujours. Troisièmement, selon la parole de Dieu, la souffrance n'est pas incompatible avec la bonté de Dieu et avec la puissance de Dieu. Quand on parle de la souffrance, il nous faut jongler et maintenir en équilibre un certain nombre de choses en même temps. La bonté de Dieu, la toute-puissance de Dieu et l'existence de la souffrance sont trois choses à maintenir en équilibre. Et tous ne réussissent pas à les maintenir en équilibre. La Bible les maintient en équilibre. Mais pour certains, ils résolvent le problème de la souffrance soit en niant la souffrance, bouddhisme, soit en niant la bonté de Dieu. Après tout, si Dieu est infiniment bon et infiniment puissant, mais que la souffrance existe, alors d'une chose ou de trois choses l'une, ou bien la souffrance n'existe pas, ou encore, si Dieu est tout-puissant, il n'est pas complètement bon. S'il permet le mal, mais ne peut pas, ou ne veut pas l'enlever, alors qu'il serait tout-puissant. Alors, certains arrivent à résoudre l'équation de ces trois variables en niant l'existence de la bonté de Dieu, ou du moins en la réduisant sensiblement. Tandis que d'autres vont choisir de réduire une autre part de l'équation, la souveraineté de Dieu ou la toute-puissance de Dieu, et que Dieu voudrait bien enlever le mal, mais nous a donné libre choix, donc il est pris avec cette situation-là. Et maintenant, bien, il laisse les choses aller et éventuellement récupérera la donne. Si c'est la pensée que nous avons vis-à-vis de la souffrance, j'aimerais vous réinviter à remettre ces choses en équilibre, parce que la Bible affirme les trois à la fois. L'existence de la souffrance, la bonté infinie de Dieu et la puissance infinie de Dieu. Comment mettre ces trois choses ensemble? Ça a occupé les théologiens pendant des siècles, et ça va encore les occuper pendant des siècles si le Seigneur tarde. Mais ce sont trois réalités qui sont affirmées par la parole de Dieu. Et chercher à nier une ou l'autre, à amoindrir l'une ou l'autre, c'est de se trouver en déséquilibre doctrinal et dans pas longtemps, même vis-à-vis de la consolation que peut apporter les Écritures, on va s'en priver si on néglige certains de ces éléments-là. Yannick vous en a parlé la semaine dernière, il m'a envoyé son esquisse de message. Alors, j'ai pu savoir un petit peu ce dont il s'agissait. Et la Bible ne nous dit pas tout, hein? Mais elle nous déclare que Dieu demeure au contrôle et qu'il accomplit son plan rédempteur même à l'intérieur de la souffrance. On a chanté « Rédempteur du monde » tout à l'heure. Ce Dieu rédempteur a un plan et il est en train de l'accomplir. Ça, c'était troisièmement donc. La souffrance n'est pas incompatible avec la bonté de Dieu ou la puissance de Dieu. Quatrièmement, il existe, selon la parole de Dieu, différentes causes de la souffrance. Vouloir tout mettre toutes les souffrances dans une seule cause, ce serait encore là de ne pas maintenir certaines choses en équilibre. On peut parler des causes naturelles. Inondations, famine, tremblements de terre, maladies jusqu'à un certain point. Et la Bible nous présente certaines causes naturelles. Il y a des causes politiques, par exemple l'injustice politique, les guerres, négligence d'un groupe vis-à-vis d'une majorité ou préférence ou favoritisme d'un vis-à-vis de l'autre. Il y a, semble-t-il, du mal qui semble sans cause apparente. Allons lire rapidement un texte dans Luc, chapitre 13. On commence à ouvrir nos Bibles. Et tout à l'heure, on va regarder plusieurs textes. Si vous voulez les prendre en note, vous pouvez le faire. Luc 13, une situation qui est amenée devant Jésus. Je vais finir par ajuster le lutrin à ma hauteur. Dans Luc 13, verset 1, il est dit « En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate, gouverneur romain, avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. » Imaginez-vous, il y a des pèlerins qui viennent offrir un sacrifice, vraisemblablement au temple, et Pilate, voulant faire régner l'ordre et la loi, il a dû y avoir une escarmouche quelconque, on ne connaît pas les détails, mais les soldats sont sortis et ils ont mis certaines personnes à mort. Le sang de ces personnes-là a été mêlé au sang de leur sacrifice. Hey, en train d'adorer Dieu, tu te fais tuer. Alors, la question vient à Jésus. Ou du moins, ils viennent lui raconter cela. Et Jésus leur dit, leur répondit verset 2, « Pensez-vous que ces Galiléens aient été des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? » Ces gens-là avaient fait la route, pèlerinage, pour s'en venir jusqu'à Jérusalem. Et Jésus est en train de dire, « Pensez-vous que ces gens-là les méritaient? » Ou du moins, qu'ils aient été des plus grands pécheurs que les autres. Jésus ne les exonère pas. Mais est-ce qu'ils étaient plus coupables que les autres? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. La question n'est pas facile, hein? La situation n'est pas facile, est amenée à Jésus. Et Jésus en profite non pas pour nier l'existence de ce qui est arrivé, mais pour dire que Dieu est au courant, mais Jésus en profite pour lancer un appel à la repentance. C'est un des appels les plus clairs à la repentance dans le ministère de Jésus. Luc 13 est un chapitre très clair à cet effet-là. Mais la question est loin d'avoir surpris Jésus parce que Jésus, de lui-même, de son propre chef, amène un autre exemple. On peut amener des questions embarrassantes en Jésus. Non seulement il y répond, mais ensuite il y en rajoute. Et c'est ce qu'il fait. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé. Siloé, c'était une espèce de puits. Il devait y avoir une tour pour protéger ce puits-là. Et la tour est tombée et elle a tué, selon le verset 4, 18 personnes. Défaut de construction, poursuite en justice, non, ça n'existait pas à ce moment-là. Mais Jésus dit, pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que les autres habitants de Jérusalem? Ah, si au début c'était les Galiléens, là c'est les Jérusalémites, les gens de Jérusalem. Jésus dit, est-ce que ces gens-là étaient plus coupables? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Des choses qui arrivent sans cause apparente. Une souffrance, c'est souffrant pour quelqu'un de perdre un mari, un fils, une fille, un enfant, un parent. En l'absence de cause apparente, Jésus en appelle pour lancer un appel à la repentance. Et il y a aussi une autre cause qui est fondamentale, celle-là, qui sont les causes spirituelles. On sait très bien, selon Genèse chapitre 3, qu'est-ce qui est arrivé quand Adam et Ève ont pris du fruit défendu, lorsqu'ils ont déterminé eux-mêmes ce qui était bien, ce qui était mal. Dieu les avait avertis, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et ils sont morts, spirituellement. Ils ont vécu de nombreuses années après ça, mais spirituellement, ils ont été séparés de Dieu. Et Paul, dans Romains, si vous voulez prendre le texte, Romains chapitre 5, verset 12, dit ceci, un texte que vous devez connaître. C'est pourquoi de même que par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et là, Paul ne termine pas sa phrase. Alors, si vous ne terminez pas vos phrases, vous êtes en bonne compagnie. L'apôtre Paul fait pareil. Il reste avec une phrase en suspens. Il n'y revient pas d'ailleurs. Il va continuer le raisonnement plus tard. Il fait la même chose dans Éphésiens 3. Mais ici, il enseigne que le péché est entré dans le monde et par la désobéissance d'Adam et Ève. Et qu'est-ce qui est entré en même temps? La mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les êtres humains parce que tous ont péché. La preuve que nous sommes pécheurs, c'est que nous sommes mortels. Aussi simple que ça. Et si nous voulons constamment échapper à la mort par la médecine, trouver la fontaine de jouvence, espérer vivre à jamais, se faire imposer les mains, prier, onction d'huile, etc., etc., je m'excuse, mais il faut en faire son deuil à un moment donné. Il nous faut passer par la mort. La mort est notre dernier ennemi. Pas fatal, c'est un passage. Ceux qui étaient, il y en a peut-être ici qui étaient au funérailles de Murray Aaron vendredi, mais c'était l'occasion de glorifier Dieu pour un ministère fructueux et présenter la mort comme étant un passage. Murray Aaron, ça a été un de nos pionniers au Québec qui a travaillé surtout dans le Nord, mais aussi à Chaumet-des-Laval. Donc, on trouve ces différentes causes de la souffrance, des causes naturelles, des causes politiques, des situations sans cause apparente, ou encore des causes spirituelles. Et chacune de ces causes-là se trouve dans la parole de Dieu. Chacune se trouve dans la Bible. Cinquièmement, nous vivons dans un monde déchu où tous sont affectés par divers degrés par la souffrance. Ça, c'est ce que la Bible enseigne. D'autres religions enseignent que si tu as fait une bonne vie, jadis, tu te réincarneras dans quelque chose de meilleur. Et que si tu as fait une moins bonne vie, mais tu te réincarneras dans quelque chose de moins bon. Alors, messieurs, selon cette religion, si vous vous êtes mal conduit dans votre vie, vous allez vous réincarner en quelque chose de moins bon. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Vous allez vous réincarner en quoi? En femme. Et mesdames, si votre karma, l'ensemble de vos bonnes œuvres vous suit dans votre prochaine réincarnation, vous allez vous réincarner en homme. Dans ce système de pensée, chacun paye ou est récompensé selon ce qu'il a fait dans sa vie antérieure. D'où la nécessité de gagner des points, ceux qui aiment les jeux de rôle, là. Alors vous n'avez pour la vie. Alors, dans ces systèmes-là, vous vous améliorez ou vous vous empirez. Mais tout est au plan individuel. De sorte que je n'aide pas mon prochain qui a besoin d'aide parce qu'il est simplement en train d'expier les fautes d'une vie antérieure. Ceux qui se tournent vers les religions orientales dans notre société ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils avalent en même temps. Ils avalent des couleuvres sans même s'en rendre compte, avec toutes les formes de méditation et de religion orientale. C'est ce que ces choses enseignent dans les degrés un petit peu plus avancés. Mais non, la Bible nous présente un monde déchu dans lequel nous vivons tous et tous nous subissons les conséquences de nos péchés individuels et collectifs. Et dans la répartition de la souffrance, malheureusement, il n'y a pas de justice. Si les États-Unis croient que tous naissent égaux et que chacun vit un seul peuple sous Dieu, certains sont plus égaux que d'autres. D'autres sont plus bas, d'autres sont plus hauts. Non, la Bible nous présente le fait qu'on est tous affectés par le mal et par le péché. Sixièmement, Dieu connaît nos souffrances et n'y est pas insensible. On trouve cette vérité. Là, je m'embarque dans une espèce de grand balayage des Écritures maintenant. On va dans Exode et on va avancer tranquillement. Dans Exode, chapitre 3, un texte qui vaut la peine de lire. Si vous souffrez, si vous passez par des moments de souffrance, c'est un texte qui peut nous apporter un baume sur notre âme. C'est l'épisode où Dieu appelle Moïse à s'en aller en Égypte et à délivrer le peuple. Ça fait 400 ans qu'ils sont là, probablement que dans le dernier siècle, ils ont été particulièrement malmenés. Et l'Éternel, verset 7 du chapitre 3 d'Exode, Exode 3:7, l'Éternel dit, « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri. À cause de ses oppresseurs, je connais ses douleurs. » La Bible nous présente un Dieu qui voit, qui entend, qui connaît. Donc, un Dieu qui est sensible à nos souffrances. Dieu nous accompagne dans nos souffrances. Il vient éventuellement nous en délivrer de toutes. Mais il y a un bon bout dans lequel nous ne sommes pas délivrés. Mais nous ne sommes pas seuls. Alors il dit, « Je suis descendu, verset 8, pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter dans ce pays, dans ce bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel. Va maintenant, verset 10, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Une des conséquences de la souffrance, c'est qu'elle vient tordre notre sensibilité à la présence de Dieu. Lorsqu'on souffre, Il est difficile, surtout si on souffre beaucoup, il est difficile de sentir un Dieu qui est proche, un Dieu qui accompagne. Et on a besoin de se rappeler que Dieu entend, Dieu voit, Dieu connaît nos souffrances. Septièmement, Jésus lui-même a appris l'obéissance par la souffrance. Non pas que la souffrance a comme seul but de nous enseigner l'obéissance, mais c'est un début et Jésus n'y a pas échappé. Dans Hébreux chapitre 5, verset 7, parlant de Jésus, il est dit, « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, pendant son ministère terrestre donc, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. » On pense à sa prière à Golgotha, à Gethsémané, pardon. « Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût fils, il a appris quoi? L'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Là, les choses qu'il a souffertes ici ne renvoient pas à ses souffrances à la croix, mais son ministère a dû être un ministère de souffrance, une vie de souffrance. D'ailleurs, et c'est mon huitième point, Jésus lui-même s'est chargé de nos souffrances. Non seulement il a appris l'obéissance par la souffrance, mais il s'est chargé lui-même de nos souffrances. On retourne dans l'Ancien Testament, Ésaïe, chapitre 53, où il est dit, versets 3 à 6, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ou cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme frappé ou atteint d'une plaie, frappé par Dieu et humilié. » Les gens qui ont assisté à la crucifixion ont vu là la malédiction de Dieu. Et certains se sont écriés, hein, « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, puis on va croire en toi. » Mais la Bible nous dit que ce sont nos souffrances qu'il a portées. Oui, Christ a souffert. Oui, il a été maudit, mais pas en raison de ses péchés, mais en raison des nôtres, à cause de nos fautes, de nos péchés. Ésaïe 53 est un des textes les plus clairs de l'Ancien Testament sur ce qu'on appelle la mort vicariale, en substitution pour nous. Nombreux sont les gens aujourd'hui qui nient ça. Parmi les catholiques, parmi les protestants, même parmi certains évangéliques. Et on doit se demander à ce moment-là s'ils sont encore évangéliques. Parce qu'au cœur même de la croix, il y a le fait que Christ est mort pour nous. Et « pour nous » ne veut pas simplement dire « en notre faveur », mais « à notre place », en substitution pour nos fautes, pour nos péchés. Il a porté notre jugement. Verset 6, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui, serviteur de l'Éternel, qui va s'accomplir en Jésus-Christ, la faute de nous tous. » Loin d'être une manigance des théologiens moyen-âgeux, la substitution à la croix est déjà affirmée 750 ans avant la venue de Jésus, dans Ésaïe 53. Jésus lui-même a dit à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre, qu'il soit rejeté, mis à mort. » Marc, chapitre 8, verset 31 et suivant. Neuvièmement, la réponse divine à la souffrance ne consiste pas à minimiser nos souffrances ou à les nier, mais à les placer sur les épaules de Jésus-Christ à la croix du calvaire. La réponse que donne la Bible à la souffrance n'est pas une réponse philosophique, n'est pas une réponse théorique. La réponse que la Bible donne à la souffrance humaine, c'est que Dieu a pris sur lui nos souffrances, que Christ a souffert pour nous. Lisons le texte dans 1 Pierre, chapitre 2. Si vous avez le temps cet après-midi, lisez 1 Pierre, les 5 chapitres. Ça va vous prendre 15 minutes. Ça se lit assez rapidement. 1 Pierre chapitre 2, verset 21. Verset 20 nous parle de supporter la souffrance, dans le verset 21. C'est à cela en effet que vous avez été appelés à souffrir, parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple. Donc non seulement il a souffert pour nous, mais en souffrant pour nous, il nous a aussi donné un exemple. Sa mort n'est pas qu'un exemple ou qu'un sacrifice, elle est les deux à la fois. Encore là, il faut les maintenir en équilibre, ces choses-là. Certains voient la mort de Jésus-Christ simplement un exemple d'amour pour Dieu et qu'on doit suivre son exemple. Ça, c'est de manquer la première partie du verset. Christ est mort pour nous. Il a porté nos péchés. Mais ce faisant, il nous a aussi donné un exemple afin que vous suiviez ses traces. Verset 22, citation d'Ésaïe 53, « Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui insultait ne rendait pas d'insultes, souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Et là, on est de retour à la mort vicariale. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure nous a guéris. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'en est remis à celui qui juge justement. Là aussi, il y a des traces dans lesquelles nous sommes appelés à marcher. Et l'épître va se terminer comme ça, nous lirons tout à l'heure ce texte-là. La Bible ne nie pas la souffrance, mais elle nous présente un Dieu qui souffre. Un Dieu qui souffre pour nous. Et un Dieu qui a placé nos souffrances sur Jésus-Christ, mais aussi un Dieu qui nous accompagne dans la souffrance. Dixièmement, les souffrances du temps présent, nous dit l'apôtre Paul, n'ont pas de commune mesure avec la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Vous connaissez le texte? Romains, chapitre 8, verset... On va lire à partir du verset 16. Romains, chapitre 8, fait beaucoup de textes, j'en suis conscient. C'est ce qui arrive quand on fait de la théologie, non pas un simple texte, on est obligé de couvrir beaucoup de terrain. Je suis bien conscient que je ne fais que toucher la surface et que je suis déjà en retard. L'Esprit lui-même, verset 16, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ à une condition. Si, toutefois, nous souffrons avec lui. Ça ne veut pas dire que notre salut dépend si on accepte de souffrir ou pas. C'est plutôt une démonstration du fait qu'on est enfant de Dieu, parce que quand on appartient au Seigneur, nous serons persécutés, d'une façon ou d'une autre. Nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec lui. Verset 18. « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Dans la balance divine, chaque gramme de souffrance ne fait pas pencher le plateau d'un côté. Au contraire, ça n'a pas de commune mesure avec la gloire qui sera révélée pour nous. C'est comme si pour chaque gramme de souffrance, si on peut illustrer ça comme ça, ce qui est presque une folie, Dieu met des lingots de gloire pour chaque gramme de souffrance. Il n'y a pas de commune mesure entre nos souffrances présentes et la gloire à venir. Peut-être tu te dis, ça ne rend pas la souffrance plus supportable, j'en conviens. Mais au moins, ça nous donne une espérance dans la souffrance, et en ça, la souffrance devient plus supportable. 2 Corinthiens chapitre 4, nous n'avons pas le temps de le lire, mais Paul dit, nous fixons nos yeux vers les choses éternelles. Parce que les choses d'ici sont temporaires, mais les choses à venir sont éternelles. On retourne à 1 Pierre pour le 11e point, 11 de 12, on y arrive. La souffrance demeure une réalité selon la parole de Dieu, mais elle est temporaire. Ça fait partie de la bonne nouvelle. Ça fait partie de l'Évangile. Que la souffrance, bien que réelle, est temporaire. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Pardon. On avait parlé que Christ nous avait laissé des traces afin que nous puissions y marcher. Et verset 10 nous dit, « Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert, c'est dit quoi? Un peu de temps. » Et là, il y a quatre verbes. « Vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par le fidèle frère Sylvain, normalement on termine le paragraphe là, mais lisons le prochain verset. C'est par le fidèle frère Sylvain que je vous écris ces quelques mots pour vous exhorter et vous témoigner que telle elle est la véritable grâce de Dieu. Ce Dieu de grâce, verset 10, là ici on a le Dieu de la grâce. Que telle est la véritable grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés. Lorsque l'on souffre, une des conséquences de la souffrance, c'est de tordre notre perception du temps. Vous avez déjà remarqué, quand vous souffrez, le temps semble s'allonger, même s'arrêter. Quand on s'amuse, au contraire, le temps passe trop vite. Mais quand on souffre, quand on a la difficulté à dormir, quand on se réveille 45 fois dans la même nuit, quand les douleurs nous prennent, quand on est en pleurs continuelles à cause d'un enfant qui ne marche pas avec le Seigneur ou qui a commis une bévue, quand ce n'est pas le conjoint, quand ce n'est pas soi-même, le temps semble arrêter. Hein? Quand on est persécuté, on dirait que le temps allonge. Pour les amateurs de films, vous connaissez des films où l'image arrête et on fait le tour du personnage. Matrix a été les premiers films à nous présenter ce genre de choses. Mais le temps qui s'allonge, on a ça dans d'autres films où le personnage principal est le seul qui continue à bouger, tout le monde est arrêté. Et la souffrance a comme effet parfois de nous amener à voir le temps comme celui-là, comme quoi le temps est arrêté et tout ce qu'on vit, c'est souffrant. Intéressant que Pierre nous dit ici, après que vous aurez souffert, on dirait que le Seigneur lui avait révélé que notre perception du temps change dans la souffrance, après que vous aurez souffert un peu de temps. Il n'est pas en train de dire « vous aurez souffert un peu ». Non, la souffrance est réelle, la souffrance est difficile. Mais ce que Pierre relativise ici, c'est la période de temps. Relativement à l'éternité qui vient. Et c'est là où on est appelé à marcher par la foi. Douzièmement, et je termine bientôt, nous attendons les nouveaux cieux et la nouvelle terre là où il n'y aura plus ni souffrance, ni deuil, ni douleur. Apocalypse 21, versets 1 à 4. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Apocalypse 21, verset 1. Car le premier ciel, la première terre, avait disparu. La mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône, présente au chapitre 4, une forte voix qui disait « Voici la tente ou le tabernacle ou la présence de Dieu avec les hommes. Il habitera lui-même avec eux. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. » Des échos de plusieurs textes dans l'Ancien Testament. « Et Dieu lui-même sera avec eux. » Écoutez bien le verset 4. « Il essuiera toute larme de leurs yeux. » Il n'y aura plus de larmes au ciel. Certains pensent que pour que Dieu essuie des larmes, il va y avoir des larmes au ciel. Non, c'est une mauvaise compréhension du texte. Dieu va les essuyer. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Nous attendons les nouveaux cieux et la nouvelle terre. À quel point sommes-nous armés de la pensée de souffrir? 1 Pierre 4 nous a dit, hein, frère, armez-vous de la pensée de souffrir. Je termine par une petite histoire vraie. Plusieurs années, à l'église chez nous. Je m'apprêtais à prêcher un dimanche soir. Et quelqu'un qui est venu à l'église, première fois que je le vois, la seule fois que je l'ai vu d'ailleurs, m'accoste, 7h moins 3. Le culte commençait à 7h. Me demande si je peux prier pour lui. Il a dû reconnaître que c'est moi qui prêchais, j'étais celui qui avait une cravate ce soir-là. Alors, il vient me voir et il me demande ça. Je lui dis, écoute, on commence dans quelques minutes, est-ce que tu restes pour le culte? Il me dit oui. Je dis, OK, donc, je te verrai après et je prierai pour toi. Le culte se passe, il vient me revoir tout de suite à la fin et il me demande de prier pour lui. Alors, je dis, je vais le faire. Qui ne veut pas prier pour quelqu'un? Hein? Et je lui demande, qu'est-ce que je devais demander au Seigneur? Il dit, écoute, il avait l'air déjà abîmé, très maigre. Il dit, je suis un cancer, je suis en phase terminale, j'ai des métastases partout. Et j'aimerais que tu pries pour ma guérison. Ah, je dis, très bien, je vais prier pour ta guérison. Je dis, pourquoi est-ce que tu veux que je prie pour ta guérison, entre autres? Il dit, j'ai des gens dans ma famille qui ne connaissent pas le Seigneur. Et pour eux, de me voir guéri, ça va être une déclaration très forte à l'effet que Dieu est assez puissant pour me guérir. Et j'espère que ça va les amener au Seigneur. Ah, mais je dis, gloire à Dieu, je le souhaite aussi. Mais je dis, on va discuter un peu. Et en discutant un peu, j'ai été obligé de lui rappeler, aux 30 secondes, je vais prier pour toi. Mais j'aimerais aussi élargir un petit peu ta compréhension. Mais je vais prier pour toi. Mais il me dit, ah, je vous connais, vous autres les pasteurs. Il dit, tu vas prier, là, mais il dit, dans ta tête, tu vas penser, Seigneur, que ta volonté soit faite. Il dit, je ne veux pas que tu demandes ça. Il dit, je ne veux même pas que tu y penses. C'est comme de dire, pense pas aux éléphants. T'sais, à quoi tu penses? Alors, je dis, oui, c'est correct. Autant que faire se peut, je ferai ça. Je demande, je dis, pourquoi? Est-ce que tu penses que Dieu peut se glorifier par ta guérison? Mais il dit, oui, mais c'est pour ça que je te demande de prier. Je dis, oui, j'ai compris. Mais je dis, laisse-moi te poser une autre question qui est un peu plus difficile. Je dis, est-ce que tu penses que Dieu peut se glorifier par ta mort? Il me dit, non. Je dis, pourquoi? Mais il dit, Dieu, c'est un Dieu de vie, un Dieu vivant. Et il veut que les gens vivent.
Oui.
Je dis, je vais prier pour toi dans le sens que tu m'as demandé en passant. Hein? Je te pose pas un lapin, là, en mettant un piège. Mais il était incapable de concevoir que Dieu pouvait se glorifier par sa mort. Je dis, écoute, si Dieu choisit de ne pas te guérir et qu'il te reste 3 mois à vivre, quel genre de témoignage tu penses que ça pourrait rendre à ta famille que tu aies toi-même préparé le texte de la prédication? Dans laquelle prédication tu t'adresserais à ta famille pour leur dire finalement en qui tu as cru et que tu vis quand bien même tu serais mort, dans les paroles de Jean chapitre 11. Et que tu puisses t'adresser à eux, je dis écoute, ils vont être assez polis, ils vont t'écouter, même si tu n'es plus là. Puis tu pourrais choisir des cantiques, on peut t'accompagner pour ça, vivre ces moments-là avec toi. Il dit non, je ne crois pas. Je ne crois pas que Dieu puisse glorifier comme ça. Alors, je dis, d'accord, c'est ta compréhension. Pour lui, il était déjà rendu trop tard dans sa souffrance pour penser autrement que ce qu'il pensait. Il cherchait la guérison à tout prix et je trouvais ça difficile. Oui, le psaume 118, verset 14, dit « Je ne mourrai pas, je vivrai ». Texte que j'ai déjà vu est invoqué pour dire que même si je souffre du cancer, phase terminale, je ne mourrai pas. Ce texte-là est écrit par le roi d'Israël qui vient d'échapper à une bataille et ce n'était pas le temps pour lui de mourir. Alors oui, Dieu l'a épargné, mais à ce que je sache, le psalmiste est mort à un moment donné. Ce n'est pas une promesse de ne jamais mourir, ce texte-là. Et de s'accrocher à la vie à tout prix, c'est d'être désillusionné à la fin. Comme je pense qu'il était vraiment un frère qui était venu me trouver, là, m'a demandé. Et j'éprouvais de la pitié pour lui, parce que je me disais, bon, OK, oui, j'ai prié pour lui, j'ai prié que le Seigneur le guérisse, que ce soit un témoignage pour sa famille. J'ai essayé de ne pas penser à que ta volonté soit faite. Je ne vous dirai pas si je l'ai fait ou pas, vous viendrez me voir en privé. Non, je l'ai quand même dit, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas été guéri. Alors, mais pour lui, là, il était trop tard dans le processus. Si nous pouvons, par la grâce de Dieu, réfléchir d'avance à ces choses. Et nous attacher non pas à la délivrance, non pas à ce que nous espérons de la part de Dieu, mais nous attacher à Dieu lui-même. Et Dieu nous réserve des surprises. Il nous réserve sa consolation, sa présence, son accompagnement, sa miséricorde. Vous l'avez lu la semaine dernière dans 2 Corinthiens. Vous allez l'entendre la semaine prochaine encore. On a un Dieu qui nous accompagne et qui ultimement nous délivre. Dans l'entremise, à nous de placer notre foi, non pas en ce que nous nous attendons de la part de Dieu, mais de placer notre foi en Dieu. En Dieu lui-même. Et peu importe ce qu'il a choisi. Et peut-être vous vous dites, facile pour toi, tu as l'air en santé. Oui. Mais personne d'entre nous n'est épargné. Et tôt ou tard, on a tous à passer cette porte de foi en Dieu lui-même et nous attacher à lui. Prions. Seigneur, nous voulons reconnaître qu'il y a des dimensions, des domaines qui nous échappent. Et nous voulons, par ta grâce, nous attacher à toi seul. Dans ta bonté, Seigneur, renouvelle nos forces, renouvelle nos esprits, renouvelle notre foi pour que nous puissions nous attacher à toi et à toi seul. Remplis nos cœurs à ta présence et aide-nous à marcher d'une manière digne de l'Évangile. Aide-nous à nous soutenir mutuellement, non pas nous juger, non pas présupposer des choses, mais que dans la maladie comme dans la souffrance, comme dans la santé, nous puissions, par ta grâce, t'honorer par nos vies. C'est en Jésus que nous te le demandons. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse.